Hashtag 2050 le podcast, c'est chaque semaine votre shoot de futur. Aucun effet secondaire, juste un trip vers 2050. Je suis Rebecca Armstrong, votre dealer. Ma cam, imaginez le monde de demain. Vous ai-je déjà parlé de Podcastéo ? Podcastéo, c'est un groupe d'entraide entre podcasts qui a l'ambition de vous faire découvrir de nouveaux univers. Alors je pose la question, mais la réponse je la connais très bien, puisque je vous en ai parlé la semaine dernière, et j'en remets une couche cette semaine pour vous parler encore de l'école des facs. Et ils se décrivent eux-mêmes ainsi, un podcast de chronique au sujet varié qui parle technologie et ou vie numérique en toute illégitimité. Alors ils disent illégitimité, mais en fait, écoutez-les, vous verrez, ils sont tout à fait légitimes, en tout cas, autant que moi, à parler de 2050. Je voulais également vous dire, avant de démarrer cette nouvelle conversation, que le vœu de Soraya, la semaine dernière, était habillé par les douces notes d'un groupe que j'aime beaucoup qui s'appelle Jackson and His Computer Band. Le morceau, c'est Orgisteria, un morceau sublime que j'aimerais vous faire écouter en entier, mais il est assez long, donc c'est pas vraiment possible. Allez le découvrir lui aussi. Cette semaine, mon invité, c'est Gaël Musquet. Alors Gaël, je le connais finalement depuis pas mal d'années. Sa rencontre me renvoie à mon ancienne vie professionnelle. On se retrouvait, pour l'anecdote, dans le train Rouen-Paris. On s'installait à peu près toujours, alors sans se coordonner, mais on se mettait dans le premier wagon et on était toujours ravis de se retrouver ensemble. On imaginait alors des projets à monter ensemble, notamment au Bénin. J'étais alors responsable de projets de coopération décentralisée avec Boïcon, une superbe ville à découvrir absolument si vous mettez un pied au Bénin. Gaël, d'ailleurs, je l'avais invité dans mon ancienne émission de radio qui s'appelait Ton Libre, une émission qui passait sur l'antenne de la radio HDR. Et pour vous donner une idée, c'était en janvier 2013. Mais je ne voudrais pas m'attarder sur le passé. Gaël, j'aime à dire que c'est un serial hacker, un hacker en série, et ça se conjugue très bien au présent et encore mieux au futur. Le futur commence ici et maintenant.
Salut Gaël.
Salut Rebecca.
Je suis ravie d'avoir réussi à te coincer.
Enfin.
Depuis le temps qu'on parle de faire ensemble un épisode de Hashtag 2050. Enfin, nous sommes réunis au Havre, en plus une ville qui est importante pour toi.
Oui, puisque c'est celle où j'ai appris à concevoir des capteurs météo. C'est la ville où je faisais la navette entre Mont-Saint-Aignan et les bureaux que j'avais ici. Mm-hmm. Vraiment, toute l'aventure européenne pour moi a commencé. Ouais. C'est toujours un moment émouvant pour moi de revenir ici.
En fait, on te connaît. Je pense que mes auditeurs peut-être te connaissent. Pour ceux qui ne te connaissent pas, on te connaît notamment pour OpenStreetMap, sur lequel tu as beaucoup travaillé, et puis aujourd'hui l'association HEND. Est-ce que tu peux me dire deux mots de OSM et puis de HEND?
Alors, OSM, pour ceux qui ne connaissent pas, on a toujours des gens qui lèvent la main en conférence quand je demande qui connaît ou qui ne connaît pas. OpenStreetMap, c'est ce grand projet de cartographie libre, similaire à Wikipédia sur l'encyclopédie, nous plutôt sur l'Atlas. Aujourd'hui, des centaines de milliers de personnes qui ont contribué, qui ont rajouté des routes, des noms de rues, qui ont fait des traductions.
Et partout dans le monde,
tracé des forêts, des lits de rivières. Des points d'urgence, enfin, vraiment une carte complète du monde, des villes. Et un constat qui m'a amené à créer HEND, qui a été soutenu dès le début par le conseil d'administration d'OpenStreetMap France, ouais. C'est qu'on a toujours besoin, après une crise en fait, de connectivité, qu'on a toujours besoin d'accès à Internet pour remonter les informations cartographiques, et les contributeurs locaux sur place, sur le terrain, le théâtre d'opération lié à une crise, sont souvent dans des Fab Labs, dans des cybercafés qui existent encore partout, des taxiphones, enfin tous ces endroits où la connectivité arrive. Et où les personnes sont préparées en général à être débrouillards pour pouvoir faire face aux crises. Et c'est souvent sur ces communautés locales, c'est souvent sur ces petites bulles connectées que la communauté OpenStreetMap aujourd'hui grandit. pour pouvoir remonter ces informations du terrain. Et on a vu la redoutable efficacité des communautés africaines, notamment pendant la crise d'Ebola. On le voit là en ce moment sur la Caraïbe, on l'a vu aux Philippines. Donc on a quand même un lien fort communautaire des contributeurs qui souvent se sentent très investis, très motivés parce qu'ils ont joué avant la crise. Ils ont joué à cartographier leur quartier, ils ont joué à cartographier l'accessibilité, ils ont joué à cartographier les réseaux d'infrastructures. Et donc, quand la ville se retrouve dans un état dégradé,
de crise, ouais.
De crise, eh bien, ce jeu, cet entraînement devient un enjeu, une ressource, un moyen de survie et de rétablissement, de reconstruction, de meilleure reconstruction en fait, de la ville, à travers la donnée qui sert d'ailleurs à enrichir les infrastructures. On sait ça, c'est comment on prépare, comment on forme les populations locales sur un territoire en proie à des crises face aux enjeux, aux aléas, au stress d'engendre ces crises. Et comment on reconstruit mieux, plus vite, plus fort, plus résilient.
D'accord. Alors, ce que je te propose, Gaëlle, c'est qu'on se projette tout de suite en 2050. Nous sommes en 2050, pourquoi pas au Havre. L'association AND a maintenant plus de 30 ans d'existence, peut-être qu'elle n'existe plus, parce que tout ça, c'est devenu la norme. En tout cas, j'aimerais que, justement, ton terrain de jeu, c'est le numérique au service de l'humain. En 2050, quelle est la place du numérique? Qu'est-ce que tu vois autour de toi?
Alors, 2050, ce que je vois, c'est effectivement cette disparition de AND. J'ai souvent, en 2017-2016, tenu ce discours qui n'est pas souvent entendu de manière bienveillante de la part d'ONG, souvent, parce que c'est pas toujours simple de dire que ce qu'on a créé a vocation à mourir et doit disparaître. Parce qu'une fois que AND aura disparu, c'est que les collectivités, les citoyens auront acquis les gestes de premier secours et qu'on aura une vraie sécurité civile numérique.
D'accord, alors, sécurité civile numérique.
Tout à fait.
Est-ce que tu peux m'expliquer cette expression?
Voilà, donc en gros, en 2050, on aura une vraie sécurité civile numérique parce que la sécurité civile aujourd'hui se focalise avec ses moyens. Sur le rétablissement de l'eau, de l'énergie et des circuits d'alimentation, évidemment, des populations, à la reconstruction. On se rend compte déjà aujourd'hui que le numérique arrive au même plan que l'eau et la nourriture. Pour plein de raisons, parce que ce numérique, cette connectivité permet de gérer déjà les flux. Donc une sécurité civile numérique en 2050, c'est des citoyens formés, des fonctionnaires formés, des pompiers formés, pour pouvoir faire face aux crises.
D'accord.
Donc un aléa survient, une inondation, un défaut d'alimentation électrique puisqu'on n'aura plus de centrales au fioul,
oui.
Plus de centrales nucléaires, hein, on va dire ça. On n'aura que des énergies propres, renouvelables, qui nous permettront d'alimenter cette ville du Havre. Mais ce sont des personnes qui sont capables, à partir du toit de leur maison, de tenir 24, 48, 72 heures, 96 heures avec une alimentation électrique autosuffisante, voire répartie entre voisins, donc une vraie solidarité électrique qui permet déjà d'avoir une alimentation électrique au niveau du quartier.
D'accord.
Alors, beaucoup de smart
alors,
grid.
Oui, évidemment, dans ces villes totalement connectées. Alors, si en 2050, il y a une sécurité civile numérique, comme tu le dis, ça veut dire aussi que la révolution numérique qu'on aura connue dans les années au début du 21e siècle, finalement, chacun aura pu être aussi éduqué au numérique, qui ne sera plus qu'un objet de jeu, pour se faire des selfies, etc. On aura eu cette éducation et cette maturité pour faire remettre le numérique à sa place, c'est-à-dire un outil au service de l'humain.
Tout à fait. Je compte beaucoup sur cette génération qui arrive, celle de mes enfants, qui en 2050 seront des trentenaires. Hein, voilà. On aura, je pense, d'ici là, transmis tous les réflexes de base qu'ont eu, on en parlait juste avant cette interview, nos grands-parents et arrière-grands-parents pendant la guerre, des réflexes de survie, d'autosuffisance alimentaire, de glane, de récupération de nourriture qui avait été gaspillée ou qui était tombée de moyens de transport. Cette formation, pour moi, elle vient comme toute forme d'éducation des parents. Donc nous, parents, on est transmis des bonnes pratiques d'hygiène numérique, de respect de la vie privée.
J'aime bien l'hygiène numérique.
Voilà, de respect de la vie privée, pas de nudité sur les réseaux sociaux. Enfin, toutes ces choses qui font qu'on utilise correctement cet outil numérique. Et en même temps, une fois qu'on l'a utilisé à des fins de loisirs, comme tu dis, qu'on sache aussi l'utiliser en gestion d'urgence. Donc on parle beaucoup d'MSGU. Donc, ce qui veut dire médias sociaux en gestion d'urgence.
D'accord.
Mais comme les premiers secours, que ces enfants aient eu un cours d'MSGU. Et donc, que les réseaux sociaux actuels, voire futurs, ben, intègrent complètement le fait que, voilà, on est témoin d'un accident, on est témoin d'un AVC, d'un incendie.
Donc, plutôt que de filmer et de le mettre sur les réseaux sociaux, justement pour dire « j'y étais », on intervient.
Voilà. Qu'on intervienne, qu'on dise que l'on intervient, qu'on appelle les secours, mais que les secours eux-mêmes, puisque ça va dans les deux sens, soient capables de remonter et d'analyser ces signaux qui remontent en fait des personnes, qui sont des formes de capteurs en fait. Ces capteurs qui seront, je pense, aussi généralisés. Donc on détectera plus tôt les incendies, on détectera plus tôt les inondations, on détectera peut-être aussi plus tôt les séismes, et on donnera peut-être 10, 15, 20, 30 secondes, une minute, voire plusieurs minutes, quelques heures aux populations, le temps de s'organiser pour faire face à un aléa qui va survenir. Ce que l'on voit surtout, c'est que ces catastrophes naturelles engendrent aujourd'hui des catastrophes technologiques. Donc la technologie n'est plus un facteur de résilience, mais un facteur de fragilité. Donc il va falloir aussi que dans l'architecture de nos futures villes, dans la rénovation de nos villes, dans leur évolution, que cette architecture numérique elle évolue pour remonter des informations du terrain, qui seront ces informations mieux analysées, que ces informations ne soient pas aux mains d'entreprises ayant des monopoles.
Oui, ça, je veux aussi, parce que c'est une vraie question.
Parce qu'aujourd'hui, c'est le cas sur l'information trafic automobile. On a aujourd'hui des entreprises qui ont su saisir l'opportunité du numérique. Et on ne peut pas leur en vouloir d'avoir saisi cette opportunité. On peut en vouloir aux collectivités, on peut en vouloir à l'État de ne pas avoir su organiser cette innovation, de ne pas avoir su la capter dans les services pour en faire quelque chose de régalien. C'est-à-dire que demain, que les données de navigation, quelles qu'elles soient, trafic automobile, trafic aérien, trafic maritime, trafic fluvial, trafic de drones, on va y venir, trafic satellitaire, vu qu'il y a énormément de déchets aujourd'hui spatiaux, mais que tous ces enjeux de navigation soient intégrés dans la vie des villes. Mmh. Et que le numérique serve non pas comme facteur et vecteur d'affaiblissement de souveraineté, qu'une puissance étrangère soit capable aujourd'hui d'influencer des élections dans une ville, dans une région, dans un pays, déjà aujourd'hui, ben, que ce ne soit plus le cas demain. Que cette intelligence artificielle qui est à la fois encensée et à la fois crainte, ben, qu'elle serve vraiment à améliorer le quotidien des gens. Aujourd'hui, cette intelligence artificielle n'est pas alimentée par tant de données que ça. Et donc, les modèles parfois divergent sur ce qu'est la vie réelle des gens. C'est pour ça que je m'investis beaucoup aujourd'hui dans l'entrepreneuriat social, et qui d'ici, j'espère, 2050, ben, sera une discipline enseignée et on verra en fait des quartiers se gérer numériquement, se gérer humainement, parce qu'il faut faire tourner toutes ces technologies-là pour prévenir, pour alerter, pour former, pour informer. Informer qui ? Ben, c'est des gens, c'est des hommes, des femmes, des enfants, des personnes à mobilité réduite, auxquelles il faudra faire parvenir l'information. Et pour ça, ben, il faut que ce soit des hommes et des femmes qui soient derrière, vérifient, contrôlent, digèrent en fait ces informations pour prendre les bonnes décisions.
Alors dans ce 2050 que tu décris, moi ça me pose plusieurs questions, notamment, tu l'as un peu évoqué, en 2016-2017, début du XXe siècle, on parlait tout le temps des GAFA qui collectent la donnée que les citoyens du monde entier consentent en gros à livrer. Voilà, derrière il y a aussi des algorithmes, de l'IA qui mouline tout ça et qui nous trace précisément. D'ailleurs, il y a depuis septembre 2017, est apparue une pub à la télé pour Quant qui interpelle bien d'ailleurs là-dessus. Qu'est-ce qui a fait qu'on a changé dans le 2050 que tu décris, les GAFA, c'est de l'histoire ancienne. Il y a un service public mondialisé du numérique. Comment la transition se fait de l'un à l'autre ?
La transition se fait par l'émergence de nouveaux acteurs. Le réseau Internet est un réseau par définition décentralisé, acentré. Et on assiste aujourd'hui à quelques mouvements aujourd'hui de décentralisation d'Internet. Donc que chacun soit pour partie à la fois collecteur mais aussi analyste, parce qu'on aura été formé à prendre du recul par rapport
à... Donc on reviendrait au pair à pair, à une décentralisation
complètement.
Qui s'appuie...
On avait commencé avec la musique.
Oui.
Il y a eu une forte réaction de l'industrie musicale qui n'a pas su, au début en tout cas, prendre tout ce qu'apportait puissant le numérique. On a découvert ensuite qu'on pouvait s'échanger de l'argent avec les crypto-monnaies, avec la blockchain qui est utilisée à toutes les sauces aujourd'hui et qui sera ni plus ni moins que la transposition de ce qu'est Internet déjà par nature. La décentralisation, la dématérialisation des échanges. Et que oui, les individualités affaiblissent, les échanges inter-individuels affaiblissent ces grandes machines qui centralisent l'information, grandes machines qui centralisent aussi l'innovation et la diffusion de l'information. Et que derrière, même que l'illettrisme numérique disparaisse,
oui.
Que l'on soit capable de faire la part des choses sur les réseaux sociaux, sur les médias qui ont évolué en 2050, qui sont personnalisés, mais qui permettent aussi de croiser plus rapidement les sources et les sources d'information.
Alors tu appelles aussi dans ton propos, j'ai l'impression, à une plus grande régulation, à la fois une plus grande régulation et puis une plus forte décentralisation quand tu parles de territoire, une certaine autonomie, c'est ce que tu disais. Donc c'est apprendre à mieux utiliser les outils numériques, mais c'est aussi un autre modèle de société où à la fois on a une puissance publique, je ne sais pas si elle s'appelle État dans le 2050 que tu imagines, mais en tout cas qui régule, qui fait que la donnée elle n'est pas là. N'est plus une propriété privée, donc c'est un véritable bouleversement.
C'est ce que j'appelle de mon vœu une société civile informée et formée, ce qui est la base de la gestion de crise. Alors, je reviens toujours à ce tropisme, les crises nous apprennent beaucoup à revivre ensemble.
Ouais.
On a beaucoup montré dans le passé des personnes qui pillent, des personnes qui s'affrontent, des personnes qui se tuent pour des ressources naturelles. Alors que le numérique est fait d'abondance et que c'est de savoir, abondance de techno, abondance, mais que ce savoir-là, en 2050, soit utilisé non pas pour avilir, appauvrir, mais développer, enrichir, physiquement, enrichir spirituellement, matériellement, intellectuellement, des communautés comme OpenStreetMap ou Wikipédia aillent de soi dans tous les domaines de nos vies, sur le partage de bonnes pratiques agricoles pour nous nourrir, sur des partages de bonnes pratiques sociales pour mieux vivre ensemble, sur des pratiques demain, je l'espère, de meilleure démocratie pour le coup, rapide, basée sur les faits, basée sur l'action, et pas sur toute une série d'hypothèses ou de préservation d'intérêts ou de caste ou de rente.
Oui, ouais.
Parce que c'est aussi ce qui sclérose un peu nos sociétés actuelles. Alors ça a fait peur dans le passé pour la musique, pour le cinéma, ensuite pour les banques, pour les assurances, pour les transports.
Oui, aussi.
Chaque secteur s'est vu profondément transformé dans ses pratiques, dans ses échanges. Là, 2050, c'est ça. C'est utiliser ce numérique-là qui soit répandu dans le désert.
Accessible.
Où j'étais en 2017. Dans les camps de réfugiés, qui gèrent mieux ces flux de population et qu'on arrive à mieux nourrir, qu'on arrive à mieux abreuver, qu'on arrive à fixer plus rapidement pour que les gens retournent à leur vie normale, que ces conflits soient moins longs, qu'ils soient gérés de manière beaucoup plus diplomatique, voire parfois en ligne, puisque les ressources naturelles, avec les transitions énergétiques, susciteront moins de tensions.
Oui.
Donc pour moi, c'est aussi tout ça le numérique, l'utilisation de nouveaux matériaux, de matériaux plus répandus, moins rares, nécessitant moins de mine.
Oui.
J'avais carte blanche pour le rêve. Alors moi, je,
rêvant, plaisir, c'est l'objectif.
Je suis extrêmement pragmatique sur mes rêves. Si ne serait-ce qu'une partie d'entre eux permettait d'améliorer le quotidien de 10, 15, 100, 200, 300, 400 personnes, ce serait déjà énorme. On l'a vu en 2016, en 2017 avec le bateau que j'ai accompagné d'SOS Méditerranée,
oui, l'Aquarius.
L'Aquarius. On part d'une idée folle, on utilise la force et la puissance des réseaux, on lève des centaines de milliers d'euros pour faire partir ce bateau de 77 mètres pouvant accueillir 500 personnes et plus de 15 000 personnes ont été sauvées par cette initiative citoyenne décentralisée hors des initiatives de l'État.
Ouais, ouais. Donc toi, tu, justement, ce changement de modèle, s'il fallait miser sur un cheval, ça serait sur celui de la régulation par les pouvoirs publics ou par la force des initiatives, tu parlais tout à l'heure des entrepreneurs sociaux, de la société civile
Moi, je suis extrêmement, à avoir beaucoup voyagé, vu beaucoup de sociétés, je suis extrêmement optimiste de la capacité de la société civile à s'organiser. On a voulu souvent la déposséder de sa capacité de réflexion, d'analyse, et c'était facile avec de grands médias qui concentraient l'information. L'histoire nous montre que de petits groupes formés, informés, de citoyens, de hackers, de développeurs, d'humanitaires, arrivent parfois à faire bouger les lignes et à amener un grand nombre de personnes à rejoindre en fait ces circuits de solidarité, de coopération, d'enrichissement scientifique et technique qui permettent de mieux faire fonctionner la ville et nos villes entre elles. Donc là-dessus, je suis très optimiste. Je le suis beaucoup moins sur les systèmes traditionnels de gouvernance politique qui se délitent. Perte complète de repères sur les partis, les grands partis qui disparaissent comme ça du jour au lendemain d'une élection, qui vendent leur patrimoine immobilier, qui font appel à des banques, à des prêts pour renflouer leur activité. Là où l'entrepreneuriat social explose, où ma génération qui a 70 ans en 2050, et donc à la retraite, hein,
ouais.
Normalement.
Oui, voilà, c'est ça, tu sais, je voudrais faire un sujet sur la retraite.
En 2050, ma génération qui a complètement décroché début des années 2010, on est décrocheur, moi je suis un décrocheur de la fonction publique, parce que je ne trouvais plus de sens dans mon action régalienne, dans le vœu que j'avais fait en tant que fonctionnaire de servir la nation, je n'arrivais plus à la servir. Et donc j'ai décroché, pour entreprendre.
Plus de visibilité de l'intérêt général.
Donc en 2050, on n'est pas content, on râle plus, on entreprend. On n'est pas content. Eh ben, on entreprend, c'est pas forcément créer une entreprise, c'est créer une association. On n'est pas content de voir des SDF, eh ben, c'est le carillon. On se mobilise, on trouve des solutions, on mobilise des commerçants, on mobilise des restaurateurs pour... nourrir, héberger, laver, soigner, réchauffer des personnes qui en ont besoin. C'est ça pour moi 2050. Cette capacité qu'apporte le numérique de décentraliser nos actions et de moins les penser par l'État, via les collectivités.
Alors, là encore, sur la question de la régulation, ça veut dire aussi que de 2050 que tu imagines, il y a une véritable confiance des pouvoirs publics, quels qu'ils soient en 2050, pour que justement donner les moyens aux citoyens de s'investir, de décider, d'entreprendre, etc. Et là aussi, c'est un modèle, en tout cas en France, qui n'est pas le plus courant aujourd'hui.
Mais on revient aux sources.
Ouais.
Ces structures sont au service du bon fonctionnement et de l'organisation de la cité, à la base.
Oui, c'est ça.
Pas la défense d'intérêts particuliers, je ne fais pas de discours. La décentralisation, pour moi, de ces échanges-là, du coup, remet du sens et remet au centre l'action de la gestion de la cité.
Oui, parce la qu'on distribution, de la prise en fait.
Tout à fait.
La prise sur ces territoires qui sont à taille humaine.
Bien sûr. Là, Et on a un pays qui fonctionne, qui est bien gouverné dans le sens de ses infrastructures, parce qu'on a eu des politiques qui, après la guerre, ont eu une vision de développement des infrastructures. On a eu des visions sur les voies ferrées, on a eu des visions sur les réseaux électriques, on a une vision sur les réseaux numériques. Et cette vision s'est transformée en gestion comptable.
Ouais.
Des infras, de l'investissement, de la précarité, du social, de l'aide, etc. 2050, c'est que toutes ces infrastructures qui ont donné naissance à des nouveaux modes d'organisation, que ces nouveaux modes d'organisation aident à réorganiser aussi la gouvernance et qu'on réintroduise de la vision.
Ouais.
C'est malheureusement ce qui a conduit à la perte de beaucoup de partis, c'est que ces partis ne donnaient plus de vision.
Je suis d'accord.
Ne faisaient plus rêver.
Ouais.
C'est le meilleur moteur qui soit aujourd'hui, et c'est celui que je promeus depuis pratiquement que je suis en conscience.
Ouais.
C'est le rêve. J'ai beaucoup rêvé enfant, malgré les catastrophes que j'ai vues se succéder aux Antilles. Mais justement, ces catastrophes ont suscité chez moi beaucoup de rêves que j'ai pu réaliser en arrivant en Europe, que je transmets aujourd'hui à mes enfants, que je transmets à des enfants quand je retourne chez moi. En tant que diaspora antillaise, je reviens souvent chez moi pour faire rêver comme moi on m'a fait rêver enfant.
Alors justement, pour finir cette courte conversation, Gaëlle, encore un peu de rêve puisqu'il te revient de formuler un vœu pour cet horizon 2050.
Alors, mon vœu, on va être simple, je vais faire un bond dans le passé pour mieux rêver du futur. Marconi, Volta, Ampère, Ferrier, tous ces grands hommes et ces grandes femmes aussi qui ont fait Curie pour la cité et bien d'autres, qui nous ont tant inspirés sur l'électromagnétisme et l'usage en fait de la radio, du courant électrique pour communiquer. Sans tous ces travaux-là, on n'aurait pas d'internet, on n'aurait pas de téléphone mobile, on n'aurait pas de micro,
podcast.
On n'aurait pas de podcast. Pendant 200 ans, depuis 200 ans, en tout cas 2017, que cette discipline de la radio redevienne une discipline populaire.
Ah, ouais.
Les radioamateurs, dès le début, étaient des amateurs populaires qui transmettaient des savoirs et des connaissances. Et j'appelle de mon vœu en fait que cette communauté radioamateur qui s'est beaucoup sclérosée en France, à peine une dizaine de milliers de personnes inscrites, très peu d'actives, mais que l'on trouve des niveaux d'activité proches de ceux des États-Unis en 2017, où en 2017 on avait environ 800 000 radioamateurs, donc un radioamateur pour 400 habitants.
D'accord, waouh, c'est dingue.
Aux États-Unis, un pour 7 000 en France. Donc que ce ratio-là, évidemment, augmente en France, qu'on ait plus de radioamateurs, parce que de cette discipline naît toutes les autres pratiquement. Le hacking, les premiers hackers étaient radioamateurs.
D'accord. Ça me fait penser aussi au continent africain où les radios aussi locales, les radios communautaires, c'est comme ça qu'on les appelle, ont aussi un rôle social
tout
extrêmement
à fait.
Fort.
Tout à fait.
De revenir à ça.
Et le côté, les trois piliers du radioamateurisme sont la fraternité, la gestion de crise et l'expérimentation, qui pour moi sont les bases de l'innovation et du rêve et du futur.
Mmh.
On peut se projeter que si on expérimente, que si on est fraternel, parce qu'on partage ces expérimentations-là, et qu'en temps de crise, ces expérimentations servent vraiment à progresser, comme Gustave Feillat a su le faire avec la radio au moment de l'éruption de la montagne Pelée en 1902, qui a fait qu'on a encore en 2050 cette tour Eiffel à Paris, debout. C'est ces émetteurs radio en 1909 qui empêchent la destruction de la tour Eiffel. 2050, c'est ça. C'est des radioamateurs, ce sont des hackers, ce sont des citoyens qui transmettent leur savoir, qui le partagent pair à pair et qui sont capables de se coordonner face au changement climatique pour pouvoir faire face, préparer les villes à subir ces chocs et continuer à s'organiser et à être solidaires.
Très bien, j'aime beaucoup ce vœu qui est très radiophonique forcément. Merci beaucoup Gaëlle,
merci,
vraiment ravie qu'on ait pu discuter ensemble. Et puis à très bientôt.
À très bientôt.
Vous l'avez compris, j'acquiesce à 200% au vœu de Gaëlle. La radio, à la fois outil technique mais aussi outil du vivre ensemble, Donc la radio, un bien commun, pourquoi pas, et à l'heure où j'enregistre ces quelques mots, la COP23 est en train de se tenir, et à un moment Gaëlle a parlé de résilience des territoires, et peut-être que l'on pourrait faire en sorte que dans les débats entre les États à l'occasion de cette COP23, on parle aussi de ces outils du numérique au service de la résilience des territoires. Ça va être de plus en plus nécessaire au vu des répercussions des changements climatiques. Je vous invite à vous abonner à ce podcast, à le partager autour de vous avec vos collègues, vos amis, votre famille, et puis sur iTunes à me laisser quelques étoiles, 5 si possible, et puis surtout avec un petit mot, c'est ça qui fait le plus plaisir. Abonnez-vous, laissez des étoiles, et puis on se retrouve très très vite dès la semaine prochaine. J'ai hâte de vous faire découvrir ma nouvelle invitée. D'ici là, soyons toujours curieux.